Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Salut tout le monde, les grandes gueules dominicales sur RMC, 3 heures de débat, d'humeur et d'opinion autour des thèmes qui font l'actualité sportive en direct de 9h à midi ou en podcast pour ceux qui font la grasse mat ou qui préfèrent écouter ça tranquillement. Les GG, c'est toute l'année, donc tout l'été et surtout comme vous préférez. Au programme ce dimanche, dans un instant, la une des GG consacrée à Paul Pogba. L'international français blessé fait face à un dilemme. L'une des options sur la table d'opération lui ferait rater à coup sûr le mondial au Qatar. Son absence serait-elle une catastrophe pour l'équipe de France? Tout à l'heure, Sébastien Vettel disputera son dernier Grand Prix de Hongrie. Le pilote allemand, quadruple champion du monde, a annoncé cette semaine qu'il prendrait sa retraite à l'issue de cette saison. Quelle place laissera-t-il dans l'histoire de la F1? Le sport, les GG, est-il l'ennemi de l'écologie? C'est ce qu'on comprend entre les lignes de la punchline de la semaine, sortie de la bouche de notre ministre des Sports. On se pose la question à 10h. Elle roule sans essence. Les coureuses du Tour de France arrivent aujourd'hui pour boucler cette grande boucle. On fera un point avec Marion Rousse, directrice de la course. Elle sera notre invitée à 10h30. Le trophée des champions qui a lieu ce soir à Tel Aviv pour la deuxième année consécutive est-il une exhibition ou une vraie compétition? On posera la question à nos GG en passant la seconde et puis on ira à San Sebastian prendre la température autour de la Classica avec Arnaud Souk sur le terrain. La course, c'était hier. Le départ du Tour de France, c'est l'année prochaine. Votre double ration de zapping. Les GG et vous, en fin d'émission, vos rubriques habituelles évidemment. Amina au standard, Pierre Amiche à la production, Bastien Madonna à la réalisation. Les grandes gueules du sport, ça démarre tout de suite sur RMC.
Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
Et avec moi dans l'équipe pour vous accompagner jusqu'à midi, une grande gueule qui, comme Paul Pogba, a sa série documentaire, mais elle, c'est sur Netflix, ça ne dure qu'un seul épisode et personne n'est au courant. Marie Martineau, salut Marie.
J'adore.
Ah mais je t'adore Simon. Comment t'es au courant toi du reste?
J'ai quelques petits insiders dans la rédaction qui et puis ça bosse hein, excuse-moi mais bon.
Je vais te dire quand même parce que ça me fait très plaisir. J'ai eu la chance quand j'ai repris ma carrière d'avoir un super copain qui s'était mis à son compte et qui avait monté une boîte de prod et qui a cru en moi et qui m'a dit je vais faire un documentaire sur toi. Ne t'inquiète pas de comment le financer, comment le réaliser, tout ça. Je m'occupe de tout. Ça, il s'appelle David et c'est PVS Company et je suis trop ravie que Netflix lui ait acheté quasiment 15 ans plus tard et
comment ça s'appelle? On veut le titre.
Ça s'appelle Au nom des miens.
Au nom des miens.
Ouais,
d'accord,
voilà.
Ça parle de ski for ride.
Ça parle de mon retour au ski quand j'avais 27 ans avec ma pépette de 4 ans et de mes premières coupes du monde jusqu'au jeu où voilà, vous découvrirez bien sûr comme vous ne savez pas non plus quel est mon palmarès. Comment ça s'est passé?
Voilà, on va commencer l'émission depuis 2 minutes. Je vais quand même pas commencer à vous relayer toutes les vannes de Pierre Amiche dans l'oreillette. Une grande gueule qui, comme Paul Pogba, aime bien la ramener et chambrer, mais lui n'est pas champion du monde. Cyril Marais dans les GG, salut Cyril.
Champion du monde junior, attention.
Non mais champion du monde ou champion du monde? Bon alors.
Ah, ça
pas
compte,
champion du monde, pas champion du monde.
Ça compte.
Ça compte, ça compte. Et écoutez, c'est pareil, hein, il faut bien trouver les punchlines, hein, vous êtes marrant, mais bon,
je l'accepte, je l'accepte.
Bon. Ravi de te retrouver, Cyril. Merci, ça y est, t'es un taulier maintenant là. Hein. On est comme à la maison. Hein. Il a les pieds sur la table et tout. Si vous voyez les images, il est comme chez lui, Cyril. Ravi de te retrouver pour cette émission. Enfin, une grande gueule qui, comme Paul Pogba, s'est déjà pris pour la meilleure du monde après avoir gagné quelques matchs sur du gazon en Angleterre. Marion Bartoli dans les grandes gueules. Salut Marion.
Salut les amis.
Coucou.
Et j'étais à Wimbledon hier.
Ah. Parce que je parlais de Wimbledon, tu l'avais.
Ouais, j'étais hier, je fais l'aller-retour.
Et qu'est-ce qui se passe à Wimbledon quand il n'y a pas de tournoi? Il y a des gens qui jouent.
Ouais.
C'est vrai, on a droit.
Si tu veux, on peut aller réserver un cours, on peut aller jouer la semaine prochaine, mais si tu veux. Avec grand plaisir. Écoute,
volontiers, il faut que je travaille un petit peu mon revers au-dessus de l'épaule parce qu'il a tendance à partir dans le grillage généralement.
Oui, mais ça va sur gazon, ça va pas monter très haut la balle, t'inquiète pas.
Bon, alors tu es
sachant que t'as déjà pris une rouste au ping-pong hier.
Pardon.
Donc il paraît, hein. Je crois.
Attends,
ouais.
On perd 12-10 au dernier set, excuse-moi.
Et puis surtout,
il fallait pas vexer notre invité. Oui, j'avoue, j'ai été défié par Arnaud Assoumani hier au ping-pong. Il y a une table de ping-pong dans la rédaction. Bon, je l'ai laissé gagner, on n'allait pas le vexer. Première fois qu'il vient à RMC, bon, écoutez.
Diplomatique.
Sympa Marie, c'est noté, hein, tout est noté, tout est repris. Vous aussi, ravi d'être avec vous, les amis, vous aussi les auditeurs. Vous êtes dans l'équipe des GG ce matin, on vous attend au 32-16 sur l'application Direct Studio avec le hashtag RMC Live. Vous réagissez durant l'émission et puis vous prenez votre ticket pour intervenir dans les GG et vous. On attend votre avis. Vous venez vous confronter aux grandes gueules en fin d'émission, c'est votre rendez-vous. Allez, c'est parti les amis avec cette question. La pioche va-t-elle creuser le tombeau des espoirs de l'équipe de France au prochain mondial?
RMC RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Allez, Pogba, la frappe au chef. Paul Pogba en mode champion du monde, il a retrouvé son meilleur niveau.
Patatras, le Français se blesse tout seul à l'entraînement. Des douleurs au genou droit.
La pioche, mon pote.
La Juventus annonce une lésion du ménisque extérieur.
C'est pas possible, c'est surréaliste pour moi.
Ah ouais,
en cas d'opération, la convalescence pourrait prendre plusieurs mois.
C'est n'importe quoi, il y en a marre. C'est quoi ce cirque?
Oh non, on veut voir des guerriers sur le terrain aujourd'hui. Hein. Et moi, je veux pas rentrer ce soir.
D'où cette crainte d'un forfait pour le mondial en novembre.
Allez, dans le micro, Marie Martineau. Elle a honte de chanter la variété française, non, alors qu'elle connaît toutes les chansons.
Non, c'est faux, j'adore.
Ah, comme Stéphane Brun n'est pas là, là, on chante moins facilement quand même. Hein,
c'est notre. Je trouve que c'est un. On a beaucoup de chance d'avoir Vianney dans le paysage audio français. Voilà.
Ah, c'est vrai qu'on a de la chance. Hein, on embrasse Vianney et tous les fans de Vianney. Également, il y a Madonna, la star de la pop, et il y a Bastien Madonna, la star de la prod.
Non, mais Madonna, on n'en parle même pas. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières images de sa tête. C'est une catastrophe. Non, on parle pas de Madonna.
C'est déjà les vacances, le Marie. On est en roue libre, celui-là.
Voilà. Non, mais bon, on va parler de Pogba. Allons-y.
On va parler de Pogba, voilà. Effectivement, parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais Paul Pogba, figurez-vous, est blessé. Et il y a des choses comme ça, les impôts, la mort et les blessures du milieu de terrain français. Une blessure au genou pour le milieu de terrain qui retrouve la Juventus, le club dans lequel il s'était révélé au top niveau il y a quelques saisons. Du coup, le milieu de terrain pourrait manquer la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Alors, sur la musique qui fout les jetons, cette question pour vous les GG. Une absence de Pogba à la Coupe du Monde serait-elle, oui ou non, une catastrophe pour l'équipe de France? Marion Bartoli.
Oui.
Oui pour Marion. Marie Martineau.
Tu as vraiment dit les impôts, la mort et Paul Pogba qui
est blessé.
Mais oui, mais tu ne te rends pas compte de l'importance,
death,
Marie.
Death, taxes, et tu rajoutes ce que tu veux, c'est pour les choses immuables dans la vie que tu ne peux pas éviter.
Super, alors pour moi c'est un non.
C'est un non pour Marie Martineau. Oui. Cyril Marais.
Là, je vais dire oui.
Il va dire oui, lui. D'accord. Eh bien, avant de vous donner la parole pour entendre vos arguments, on va avoir un vrai débat. On accueille Ilia Grandjean de la rédaction RMC Sport. Salut, Ilia.
Salut tout le monde.
Salut.
Ilia, c'est salut. Quoi encore cette nouvelle blessure? En quoi menace-t-elle la participation de Pogba au Mondial?
Alors, ça s'est passé à Los Angeles, hein, entraînement de la Juventus Turin, et Paul Pogba ressent une douleur au genou. S'ensuit des examens et un communiqué du club. Lésion au ménisque latéral du genou droit. Alors, ménisque, c'est un cartilage qui sert d'amortisseur de cale, finalement, pour l'articulation du genou. J'arrête le cours de médecine. Il y a finalement trois options pour Paul Pogba. Une a été mise de côté très rapidement, les infiltrations pour continuer à jouer avec la blessure, ça il n'en veut pas. Il faut donc une intervention chirurgicale. Là, deux options. La première, je vous épargne le terme technique, mais en gros, on enlève le morceau de ménisque endommagé. L'avantage, un retour à la compétition plus rapide. Il faut un gros travail musculaire en revanche de la cuisse, notamment pour se renforcer et compenser. Le côté négatif, le genou est fragile sur le long terme, sans parler de l'après-carrière pour Paul Pogba. L'autre option, une opération pour ressouder le ménisque. Là, le genou est bien plus solide. À long terme, c'est une bonne chose, mais forcément, il y a un point négatif. C'est l'indisponibilité. 3 à 5 mois, et à ce moment-là, Paul Pogba, c'est une quasi-certitude, manquerait le mondial avec les Bleus en novembre. Deux envies s'opposent. Celle de la Juve, qui veut l'option 2 pour le récupérer à 100% début 2023. Et puis, celle de l'équipe de France, qui espère encore que Paul Pogba soit présent pour le mondial au Qatar. Le choix devrait être fait en début de semaine.
Merci beaucoup, Ilia. Tu vas rester avec nous parce que on a tous besoin d'un cours de médecine, surtout.
De temps en temps.
Moi, je m'y connais en genou.
Oui,
je suis expert en genou,
en ménisque, en cartilage, tout ça, on adore. Effectivement. Les grandes. Non, mais très sérieusement, ça pose un. Et je suis ravi de poser la question à d'anciens sportifs de haut niveau ou à des sportifs de haut niveau, parce que on est à la frontière de la philosophie, effectivement, du sport là sur les.
Tu as raison.
Mais, une carrière, en fait, à quoi ça se joue? Est-ce que tu la joues par rapport à la trace que tu veux laisser aux supporters? Cyril, tu me disais, oui, Pogba, ce serait son absence serait une catastrophe, son absence au Mondial serait une catastrophe pour l'équipe de France. Pourquoi?
J'ai dit oui parce que c'est pas d'un point de vue sportif, c'est pas d'un point de vue football, c'est simplement d'un point de vue qu'aujourd'hui Paul Pogba, de par ce qu'il a démontré, c'est un leader de l'équipe de France. On a vu énormément de vidéos sur la victoire de la Coupe du Monde où il prend la parole dans le vestiaire, où il voit voilà que c'est un meneur d'hommes, c'est un leader, et aujourd'hui voilà, bon, c'est quand même très très fort aussi au milieu de terrain. On sait, voilà, c'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs milieux de terrain gelon, on le sait aussi. Quand il est à son top niveau, Paul Pogba, c'est très très fort. Mais au-delà de ça, moi, ce que je relève surtout, c'est que c'est un leader, un meneur d'hommes, et Et aujourd'hui, on a besoin de ça pour aller au bout dans des gros championnats comme les comme la Coupe du Monde. Voilà, on a besoin d'hommes comme ça. Quand c'est dans les moments difficiles, ben il prend la parole, il est capable d'aller dire le mot juste pour motiver les troupes. Et sur une grosse compétition comme la Coupe du Monde, pour moi, on a besoin d'hommes comme ça.
Mais ça, ça marche avec exactement ce que tu viens de dire quand il est à son meilleur niveau. Et le truc, c'est qu'il n'est plus à son meilleur niveau, blessé ou pas blessé. On le sait bien, ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vraiment vu. Et ça fait du reste quelques temps que du coup, Didier Deschamps s'organise sans, sans Pogba. C'est cette paire-là, Kanté-Pogba dans, dans l'animation en 3-5-2, est plus vraiment d'actualité, je pense, malheureusement. Et alors, j'aurais peut-être même dû commencer par ça. J'adore Pogba, autant que Vianney. Pour vous dire, c'est vraiment énorme.
Autant que Vianney.
Ouais, ouais, ouais. pour son côté justement humain et tout ce que vient de raconter Cyril, maintenant, est-ce que c'est vraiment une catastrophe? Je pense que sportivement, voilà, Didier Deschamps pourra faire d'autres choix. Il va pouvoir placer Tchouaméni ou d'autres. Hein. Ça pourrait être Guendouzi, ça pourrait être Camara, ça pourrait être... La liste est longue. Des gens qui, dans le système d'animation du jeu tel que le prévoit notre sélectionneur, pourraient complètement remplacer Pogba. Après, dans le vestiaire, c'est comme ça, quand il y a un leader et qu'il s'en va ou qu'il n'est plus là, et ben, il y en a un autre qui émerge. C'est comme ça, la nature a horreur du vide et il y aura toujours quelqu'un pour, ben, prendre ce, ce lead, faire du discours dans les vestiaires, remonter le moral, on veille du gros et je crois qu'il faut avoir confiance un petit peu en la vie, en ce qui se passe. Donc, bon, pas, pour moi, vraiment pas catastrophique.
Donc, non, pour toi, après, il faut avoir aussi
une bonne équipe. Moi, Marie, tu ne comprendras pas par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, clairement, Pogba, il est meilleur quand l'équipe de France, quand il est là en équipe de France, l'équipe de France est meilleure.
Il faut ça, il est là, ouais, ça n'a rien à voir qu'il par rapport au club.
Ouais, en fait, qu'il soit à son top niveau ou pas, oui, d'un point de vue football, il peut être remplacé, il n'y a pas de souci. On a un vestiaire, on a un vestiaire énorme en équipe de France, on a des joueurs de grande qualité à tous les postes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport d'un point de vue footballistique. Mais par contre, aujourd'hui, on a besoin d'hommes. Alors, il est capable d'être meneur même quand il n'est pas à son top niveau. Il est capable de dire les mots. On sait que c'est lui qui prend la parole. On sait qu'il est là pour booster tout le monde. Et pour moi, c'est primordial d'avoir un mec comme ça qui remonte les troupes pour aller chercher la gagne, tout simplement.
C'est très intéressant ce que dit Cyril. Si j'ai le temps, je te dirai pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec toi tout à l'heure. Avant ça, je vais donner la parole à Marion parce qu'il m'a semblé t'entendre dire que pour toi, il y avait une différence de niveau entre le Pogba en club et le Pogba en sélection.
Absolument, et puis même pas que ça, tu vois, d'abord je suis assez d'accord avec ce que dit Cyril. Pour moi par contre, en revanche, dans les remplacements, et on l'a vu en National League, ils ont essayé de remplacer Pogba et ça a été catastrophique. Enfin, les résultats, ils ont fait une compétition dramatique. Didier a essayé de tourner autour, de mettre je sais pas combien de joueurs différents, ils sont jamais arrivés à trouver un milieu de terrain qui remplace Pogba, parce qu'une des raisons importantes pour le fait qu'il n'arrive pas à le remplacer, c'est qu'en fait, c'est celui qui sert le mieux à Mbappé. Donc, au-delà de ses qualités techniques de milieu de terrain, de meilleur récupérateur, c'est lui dans les duels de la tête qui va systématiquement quasiment les gagner. C'est lui qui va servir le mieux Mbappé. Et on sait très bien que Kylian, ça va être le marqueur de l'équipe de France avec Benzema, mais c'est celui qui va pouvoir vraiment te débloquer des matchs. Et les autres milieux de terrain, même s'ils ont des qualités techniques qui sont effectivement assez élevées, ils n'arrivent pas aussi facilement à trouver Kylian Mbappé. Et ça, c'est un immense problème dans le système de jeu de Didier Deschamps. Donc, bien sûr que c'est quelqu'un qui a une capacité à aller vraiment fédérer un vestiaire. C'est un leader. Pour moi, c'est quasiment le capitaine de l'équipe de France. Alors, c'est pas lui qui porte le brassard, c'est Lloris. Mais c'est lui qui, à des moments donnés, a le discours fort, a les mots forts pour aller remobiliser une troupe. Mais c'est au-delà de ça, sur le plan... Ben non, je pense pas, parce que c'est quelque chose que tu as ou que t'as pas, et c'est quelqu'un, Pogba, qui systématiquement en équipe de France n'a jamais déçu. Donc ses résultats de club n'ont rien à voir par rapport à ce qu'il est capable de produire avec un groupe France, et il l'a démontré au fur et à mesure des saisons, et même sur des saisons où il était pas très bien en club, à chaque fois qu'il se présentait en équipe de France, c'était un autre joueur. Il a cette capacité à se transcender pour l'équipe de France, mais encore une fois, si on parle parfaitement de l'analyse technique pure du foot, c'est quelqu'un qui techniquement parle le même langage que Kylian Mbappé, et c'est pour ça qu'ils se trouvent aussi facilement. C'est des joueurs avec une facilité technique que les autres en remplacement, comme effectivement Camavinga, comme Tchouaméni, comme les autres que vous avez cités, n'ont pas ces facultés-là. Et donc, dans le système de Didier, c'est compliqué pour lui de faire sans Paul Pogba, et ça serait réellement, je pense, catastrophique pour l'équipe de France.
Une chose qui est très importante aussi dans le jeu, c'est qu'il rassure tout le monde, il est rassurant dans ses relances, il a un jeu propre, posé, et ça c'est super important aussi.
On peut bien faire l'apologie de Paul Pogba pendant des heures. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un joueur extraordinaire.
On est pas en train de se demander si c'est un bon joueur de football.
Non, mais c'est ça. Je vous dis juste que dans la construction d'une équipe, à encore 8 mois de la Coupe du Monde, c'est bon. Et s'il n'est pas là, on va le savoir très vite. Et donc, il y aura le temps de se faire à l'idée pour les joueurs comme
enfin,
pour
les sélectionneurs. On n'est plus à 8 mois. La Coupe du Monde, ça commence le 21 novembre.
Oui, ben voilà, 6 mois. Bon, ben voilà, on va pas jouer sur les
et
mots.
Et bim, on a posé son calendrier chez Bartoli. Voilà.
On a 4 mois, l'équipe.
C'est pas comme si,
on a 4 mois, la Coupe du Monde. On n'est plus à 8 mois du tout.
C'est alors, pas comme si on le perdait, tu vois, sur un premier match et qu'il se pétait un genou sur le premier match de poule.
Il y a plusieurs choses, moi, qui me semblent assez typiques chez Paul Pogba, assez particulières. C'est d'une part le fait, et je reviens sur ce que disait Cyril, pour moi, un leader de vestiaire, ça se remplace parce que la nature n'aime pas le horreur du vide. Et du coup, tu prends.
T'as jamais été dans un vestiaire, sinon c'est pas possible, pas à 4 mois d'une échéance aussi importante que la Coupe du Monde.
Alors, je suis d'accord avec toi, que le rôle qu'a tenu Pogba et qu'on a découvert effectivement avec les petits inside après la Coupe du Monde, on était loin de se douter qu'effectivement, même à cet âge-là, il pouvait tenir ce rôle-là. Ce que je trouve, moi, très révélateur chez Paul Pogba, c'est que, si je peux exprimer mon avis, c'est un immense joueur de grands tournois. C'est-à-dire qu'il se sublime à la Coupe du Monde, il se sublime à l'Euro, il se sublime en équipe de France, dans un rôle qui est plus moins flashy, si je peux dire ça, qu'en club. C'est-à-dire qu'en équipe de France, il accepte un rôle de milieu défensif aux côtés d'un joueur dont il est parfaitement complémentaire, N'Golo Kanté.
C'est aussi sympa.
Et lui non plus n'était pas là pour la Ligue des Nations aussi. Hein. Marion, tu parlais du milieu de terrain, et sans N'Golo Kanté, ça change tout aussi. Hein.
Et justement, c'est en ça que je trouve que cette question est très difficile à trancher, parce que le Paul Pogba, qui porte le maillot de l'équipe de France, et qui effectivement est un leader de cette équipe dans les grands tournois, n'est pas le Paul Pogba, à mon sens, qu'on retrouve en club, qui est plus porté vers l'offensive, et qui est, selon moi, un petit peu moins discipliné. Est-ce que vous pensez que... je sais pas, un Aurélien Tchouaméni, par exemple,
mais oui,
qui a un profil un petit peu similaire, ne pourrait pas, et qui montre une maturité, là je me tourne vers toi Cyril, qui montre une maturité assez étonnante.
Ouais, c'est pas du tout le même niveau d'expérience, Tchouaméni.
C'est ça, en fait, c'est difficile.
On parle pas du tout du même niveau d'expérience dans les grandes compétitions.
Mais, oui, mais Marion, tu sais très bien, toi la première, c'est très bien que c'est pas forcément les gens d'expérience qui vont au bout des tournois ou qui font les finales de Grand Chelem ou, enfin, ça veut pas dire grand chose. Non, moi je peux pas entendre ce discours, c'est pas possible. Il y a combien d'athlètes qui sont hyper surprenants, qui arrivent la première fois sur des championnats du monde ou des jeux et bam, qui claquent la médaille.
Est-ce que c'est pas dans ces occasions-là qu'on se révèle? Voilà,
finalement, sport individuel, Marie, tu parles de sport individuel quand tu dis ça, des jeunes qui arrivent, qui pousse, qui tabasse tout le monde, ou enfin ça c'est des sports individuels.
Non, je parle de tous les sports. Il y a qu'à voir l'équipe de France de rugby, quoi. Enfin, excuse-moi, ils sont pas arrivés avec grave d'expérience.
Franck Ribéry, 2006, il arrive et il s'impose dans l'équipe. Quoi.
Ah, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il s'impose, mais en tout cas, c'est pas lui le taulier. Ça reste Zizou. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les tauliers, voilà.
T'es obligé d'avoir des tauliers qui gardent une équipe, surtout sur une compétition aussi importante, et surtout après le fiasco de la Nations League où ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait des matchs catastrophiques, et pareil à l'Euro, ils mènent quand même sur la Suisse et ils se font prendre le match. Donc à partir de là où t'es en plus tenant du titre, si t'arrives pas avec des cadres qui arrivent à gérer la pression et que tu mets que des jeunes, ça va partir en
cacahuète. Oui, mais là c'est pas le cas, il y a plein d'autres cadres, il y a quand même plein d'autres personnes dans cette équipe de France qui tiennent la route, qui sont là depuis un moment.
Et pour le coup, Paul Pogba n'est pas totalement innocent non plus sur la défaite face à la Suisse pendant l'Euro,
c'est sûr.
Oui, mais c'est une perte de balle, mais c'est à 60 mètres du but. Donc oui, d'accord, il a un peu de suffisance technique sur sa perte de balle, mais après, il y a quand même encore 60 mètres pour défendre.
Ah, mais tu vois, David Ginola, tu mets ta Griezmann, juste devant Pogba et Kanté. Le 94, hein, attention. Hein.
T'as Griezmann devant Pogba et Kanté, qui n'est pas dans une forme hallucinante. Oui, t'as Kylian et Karim devant, qui vont tenir la baraque en attaque, mais il faut qu'ils reçoivent des ballons.
Pas que.
Bah oui, mais il faut qu'ils reçoivent des ballons pour arriver à marquer. Tu vois, s'il y a un milieu de terrain où c'est une passoire, où ils n'arrivent pas à s'organiser et qu'ils sont systématiquement en train d'essayer de défendre pour ne pas prendre des buts, tu vas pas arriver à donner des ballons à des attaquants. Donc, moi, je veux bien faire une équipe sans taulier et qu'on se dise, ouais, mais il n'y a pas de souci, on va défendre, ils sont Coupe du Monde, mais sans personne, mais bon, ça va être compliqué, quoi.
Tu les as quasiment tous cités, les tauliers, il y en a un paquet, mais j'espère que Kanté et Tchouaméni vont vous faire mentir parce que c'est violent quand même ce que vous
balancez. Alors, moi, je voulais, Marie, alors qu'on soit d'accord, je voulais pas du tout qu'on parle d'un point de vue football. Bien sûr, il peut être passer par n'importe qui. Et aujourd'hui, même de par ce qu'on voit sur le terrain, il y a peut-être plus fort. Moi, je pense que Tchouaméni aujourd'hui, il est au top de sa forme. Et moi, j'adore le voir jouer. C'est très, très fort. Moi, je parle vraiment principalement que de leadership. Et aujourd'hui, à 4 mois de la Coupe du Monde, tu dis changer, mettre quelqu'un d'autre. Enfin, aujourd'hui, ça ne s'invente pas. Ça, ce n'est pas un truc que tu peux inventer. Et puis, il faut en être capable de le vouloir aussi. Il faut être capable de se dire, moi, je vais prendre la place. S'il n'y a pas Pogba qui est présent dans le vestiaire pour dire le mot, eh ben, moi, je vais le faire. Ça, il faut être capable de le se dire aussi. Parce que c'est pas évident. Parce que quand tu le dis et que ça va au bout en 2018, là, tu passes pour le héros et pour le dieu. Mais par contre, si tu dis, vas-y, je prends les rênes, je vais faire avancer tout le monde et puis qu'on fait un huitième, un quart. Enfin...
Eh bien, si par chance, il se fait la bonne opération, il fait le bon choix, machin, qu'il est revenu en novembre, je suis même pas sûre que quand t'arrives à moitié de tes capacités physiques, tu peux encore tenir ce rôle-là dans le vestiaire non plus. Donc, tout ça est quand même assez. Enfin, on est assis sur des suppositions.
Oui,
quoi,
bien
vraiment.
Sûr. Justement, Ilia, tu nous rappelles rapidement les deux options qui se présentent devant Paul Pogba, le choix auquel il, bah, le choix qu'il doit faire.
Oui, ça sera forcément une intervention chirurgicale. Soit on lui enlève le morceau de ménisque endommagé, il revient plus vite, mais il met en danger aussi sa carrière future. Soit c'est une opération pour ressouder le ménisque. Là, c'est plus solide pour l'avenir, mais le retour à la compétition est beaucoup plus long, 3-5 mois, et là, il rate la Coupe du Monde. C'est début de semaine là que le choix devrait être fait.
D'accord, on en saura plus très prochainement.
Ouais, j'avais une petite question aussi, Marie, par rapport à ça. Des sports comme toi aussi importants, avec des appuis et tout. Ménisque, c'est courant, c'est comme, parce que nous, je prends l'exemple du judo aujourd'hui. Ménisque interne, ça arrive très fréquemment. Des opérations comme celle-ci, c'est un mois et demi, et puis derrière, les mecs, ça fait un peu de prépa physique pendant la période. Mais je veux pas du tout comparer le foot, qui est un sport avec d'endurance, où on a besoin de courir, on a besoin vraiment des genoux, des appuis et tout. Mais par exemple, toi, dans le ski.
Le truc, c'est que ça dépend vraiment de chacun. En fait, ta réaction à une opération, la même là, hein, quand il nous explique que c'est 3 mois ou 6 mois ou quoi, ça dépend tellement de toi, de ton métabolisme, de comment tu vas être opéré, de comment tu vas réagir sur une opération, que ça peut. Il peut nous faire mentir complètement. Ça peut aller beaucoup plus vite, comme ça peut être beaucoup plus problématique.
Bon, voilà, en tout cas, Paul Pogba, c'est quand même. Merci, on est quand même sur des grosses machines, hein, des machines. Des gens qui sont plutôt en forme,
mais
soumettent effectivement leurs articulations à des efforts un petit peu plus violents que la moyenne de leurs congénères. On en saura plus effectivement. Paul Pogba, la France a peur. La France attend de savoir quel choix va être fait par Paul Pogba. Ça, mais, alors visiblement, c'est quand même l'option la plus courte, hein, qui serait privilégiée. Hein,
les impôts, ça t'a perturbé. Hein, t'as vu, Simon, t'es pas arrivé à finir sa phrase.
D'abord, les impôts. J'arrive pas à finir ma phrase, ouais, effectivement. Mais parce que j'arrive pas à savoir ce que j'en pense au final. Mais bon, on a eu un bon débat, les GG, vous êtes chamaillés autour du sujet du milieu de terrain international. Et on en saura évidemment plus. RMC vous donnera des infos dès qu'il y en aura. Vous restez bien avec nous, les auditeurs, parce que les GG reviennent dans un instant. On se demandera si Sébastien Vettel, qui met fin à sa carrière à l'issue de cette saison, peut nourrir des regrets. Il est quadruple champion du monde, certes, mais tout de même. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Et les grandes gueules du sport non plus ne prennent pas de vacances, enfin, sauf Jean-Christophe Drouet, évidemment, 9h31, on est de retour, on est ensemble en direct.
Et
jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marion Bartoli, Cyril Marais, Marie Martineau. Dans un quart d'heure, le zapping des GG, on s'en fout pas. Avec notamment, alors ça c'est formidable, Laval, qui arbore une étoile sur son maillot. Comme l'OM, vous savez, pour la Ligue des Champions, sauf que Laval, c'est pour célébrer le premier titre de son histoire, c'est celui de champion de National 1 la saison dernière. Et du coup, il y a une belle étoile au bas du logo. Vous nous direz dans un instant, les GG, si ça vous plaît. Mais pour l'instant, en attendant, on va se baquer. On va se baquer dans l'Aston Martin de Sébastien Vettel. À 35 ans, le pilote allemand a annoncé cette semaine via un communiqué qu'il ne serait pas au départ de la prochaine saison. Celui qui est désormais, semble-t-il, plus préoccupé par son combat pour l'écologie que par les dépassements et autres drapeaux à damier ou routes en bitume, va donc passer à autre chose. Il laisse son nom au palmarès de 4 saisons, au cours desquelles il aura remporté le titre de champion du monde des pilotes. C'était avec l'écurie Red Bull. Il aura connu moins de succès, hein. C'est un euphémisme, avec Ferrari et Aston Martin. Alors cette question pour vous, les GG, faut-il, oui ou non, avoir des regrets quant à la carrière de Sébastien Vettel, Marie Martineau?
Non.
Non pour Marie. Marion Bartoli.
Oui.
Oui. Cyril Marais.
Oui.
Oui pour Cyril. 2 oui et 1 non. Avant d'écouter vos arguments, on va accueillir c'est bien naturel, hein, comment faire sans lui. Jean-Luc Roy, notre spécialiste des sports auto à RMC, qui sera évidemment au commentaire du Grand Prix de Hongrie cet après-midi sur RMC. Salut Jean-Luc.
Oh bah quel lancement. Salut Simon, bonjour.
Salut Jean-Luc.
On ne peut pas faire autrement, allez, il est là. Bon,
alors, Non mais bah non.
Ah voilà. si, je l'ai senti.
Mais quel mauvais esprit, Jean-Luc, mais c'est pas possible ça.
Tu nous l'as vexé.
J'ai réussi à vexer Jean-Luc Roy, alors ça c'était une performance. Jean-Luc, notre king des sports auto. Tu vas pas faire quand même, hein.
Non.
La décision de l'Allemand, est-ce qu'elle était attendue? Est-ce qu'on s'y préparait dans le paddock?
Alors oui, complètement. Effectivement, comme tu l'as rappelé dans ton préambule, on peut dire qu'il y avait un petit peu de, je vais pas dire mou dans la corde à nœud parce que
ça
fait vieux. Non, ça y est, je l'ai dit. Donc, en fait, il y avait un petit peu de flou. C'est-à-dire qu'on sentait sa motivation un petit peu en suspens. C'est vrai que comme tout sportif de haut niveau, et vous en êtes tous, donc vous savez de quoi je parle, il faut être à fond dans son sport. Il faut pas se poser de questions du tout quant à sa présence, en l'occurrence, sur des circuits de Formule 1. Et quand on commence, et c'est pas du tout un reproche, je commence par là, à effectivement se poser des questions sur le fait de tourner en rond, à quoi ça sert, et consommer du carburant, bah oui, il faut arrêter tout de suite. Déjà, moi, je réponds, parce que là, effectivement, c'est un sport comme un autre. À quoi sert la MMA, ou à quoi sert, pourquoi se taper dessus entre quatre cordes? Bon, voilà, c'est un sport. Enfin, moi, je l'adore, et donc, je fais plus que le respecter. À partir du moment où Sébastien Vettel avait, semble-t-il, dans son existence personnelle, au terme d'un certain cheminement à 35 ans, d'autres questions métaphysiques, voire sociétales, bah, moi, je trouve que c'est la bonne décision de sa part. Donc c'était attendu. Alors Aston Martin a essayé de le garder un petit peu. Il faut parfois parler des choses qui fâchent avec quelques espèces sonnantes et trébuchantes, parce que on n'a pas le montant du contrat, mais je pense qu'il prenait de l'ordre de 15 millions par saison. Donc ça peut faire réfléchir aussi même les gens désintéressés. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué également à propos de Lewis Hamilton, quand on a laissé planer le doute pendant l'hiver sur le fait que allait-il continuer, mon Dieu, avec un contrat de 2 ans chez Mercedes de l'ordre de 60 millions par an.
Oui.
Bah dans ces cas-là, on continue. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà,
Jean-Luc,
vous attendiez pas autre chose. Hein.
Jean-Luc Roy qui roule à l'électrique, a des panneaux solaires chez lui.
Oui,
et voilà. Et il va pas tarder à rentrer au conseil municipal à Paris, je crois.
Baby Choumi.
On le surnommait Baby Choumi parce que, effectivement, lorsqu'il remporte son premier titre de champion du monde en 2010, il est le plus jeune de l'histoire à le faire. J'ai envie de me tourner vers le camp du oui. Faut-il avoir des regrets quant à la carrière de Sébastien Vettel? Marion, pour toi, il aurait pu faire mieux?
Ah oui, parce que sur la lancée de ce qu'il avait fait au départ avec effectivement ses 4 titres consécutifs, on le voyait dans les traces de son modèle, de son idole, de son mentor, Michael Schumacher, raison pour laquelle on l'appelait Baby Schumacher. Il a quand même des stats absolument hallucinantes, donc j'en ai repris juste quelques-unes, mais plus jeune double, triple et quadruple champion du monde à 24, 25, 26 ans, plus jeune champion du monde effectivement à 23 ans, plus grand nombre de victoires en une saison, 13 à égalité avec Schumi, plus grand nombre de victoires consécutives, 9, plus grand nombre de pôles en une saison, 15 en 2011. Il a été capable d'écraser totalement des saisons, effectivement, comme le faisait Michael Schumacher dans sa plus grande époque. Et en fait, ça a été deux moments très importants dans sa carrière qui l'ont finalement pas mis sur le côté, mais en tout cas fait rétrograder en termes de performance. Ça a été au moment où Daniel Ricciardo a intégré l'écurie Red Bull, où on a senti vraiment qu'il avait du mal avec cette concurrence-là. Donc il a choisi ensuite de partir chez Ferrari, et au moment chez Ferrari où il y a Charles Leclerc qui rentre, ça a été exactement la même chose. Donc après, il est parti sur Aston Martin pour finir avec quand même des temps et des positions nettement moins honorables qu'auparavant. Mais j'avais la sensation qu'au moment où il archi-dominait sa discipline, il était parti pour en gagner un, voire un deuxième au minimum supplémentaire,
Marion,
de titre de champion du monde.
Tu te sers des statistiques comme tu as envie de t'en servir, en fait, parce que moi, je peux te retourner exactement la même chose. Avoir fait 80 000 km en F1, 122 podiums et avoir gagné 53 fois un Grand Prix dans sa vie, c'est sans regret. Les stats, on peut les tourner dans l'autre sens et se dire, le mec a fait 16 saisons en Formule 1 et il a les mêmes stats qu'un Ayrton Senna ou qu'un Schumi si on les prend différemment et qu'on les calcule autrement. Donc je vois pas du tout comment on peut imaginer qu'il y ait des regrets. Nous ayons des regrets pour lui.
Il y a juste beaucoup plus de Grand Prix maintenant qu'il y avait auparavant.
Mais après, il peut pas avoir de regrets. Tu vois la carrière du gars, il est adulé.
Écoute, j'ai quand même encore le droit d'avoir mon opinion et t'as le droit d'avoir la tienne. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de vous que j'ai pas le droit d'avoir de regrets. J'ai parfaitement le droit d'avoir des regrets pour lui. Tu vois, c'est pas la peine de m'agresser non plus.
On aime cette bonne ambiance dans le GG le dimanche matin. Voilà, mais c'est ça qu'on veut.
J'ai pas le droit d'avoir regret. Non, mais tu vas me dire si j'ai le droit d'avoir un regret ou pas un regret.
Oui, c'est le principe de l'émission, Marion. Non, c'est qu'on se coupe, on se dit des choses, voilà. Mais a priori, tu n'aimes pas ça. Donc j'arrête. Je ne dis plus rien. Tu as raison.
Non, c'est pas ça, mais tu peux juste le dire différemment, c'est tout.
Moi, je disais oui pour les regrets, mais c'est surtout pas. Enfin. J'étais égoïste, mais je parlais pour moi et pour tous les spectateurs et pour tous les amoureux de la Formule 1. On a toujours des regrets quand on a un grand champion qui, bien qui sûr, tire révérence. Bien. Et voilà, on a des regrets. On a des regrets de le voir partir, mais aucun regret sur sa carrière. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il est sur une phase descendante. Et oui, quand on commence, surtout dans les sports automobiles aussi, on va dire dangereux que la Formule 1, quand on commence à se poser les questions pourquoi on est là, il faut tout de suite arrêter. Ça peut en être très, très dangereux. Mais en tout cas, oui, moi j'ai adoré le champion. Enfin, franchement, c'était un gentleman driver. Aujourd'hui, tu prends Vettel, il va faire tout le tour des écuries, tout le monde lui ouvre les bras parce que c'était un mec qui était aimé. Enfin, tu dis si je me trompe, Jean-Luc, mais voilà, moi j'adorais le regarder. Forcément, avec sa monoplace aujourd'hui chez Aston, on sait très bien qu'il n'était pas en capacité avec sa monoplace d'aller chercher un titre. On le sait.
C'était un projet à moyen long terme.
Ça apporte énormément aux écuries d'avoir des champions comme ça. Et puis c'est vrai que j'aurais voulu qu'il fasse la petite année en plus parce qu'on aime regarder. Moi, j'aime regarder, c'est tout. Et non, aucun regret sur la carrière. Très grand champion. Bravo, monsieur. Et chapeau bas.
Alors, tu sais ce qui t'attend parce qu'il y a la suite. Hein. Alors, on a déjà perdu Raikkonen l'année dernière. Puis, forcément, Alonso va attirer sa révérence, Hamilton aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une ère qu'il va falloir saluer. Une génération, exactement. Oui, sans regret parce qu'ils nous ont fait rêver, justement. Oui.
Alors moi, je voulais me tourner vers Jean-Luc. Tu as utilisé l'expression gentleman driver. C'est vrai que dans les témoignages qu'on entend depuis qu'il a annoncé sa retraite, il y a une unanimité quand même dans le paddock sur la classe de ce mec, sa gentillesse. Tout le monde est unanime, effectivement. La seule chose, et c'est ça qui nous a poussé à vous proposer ce débat, c'est qu'il y a quand même ces 4 titres consécutifs. Le premier en 2010, dans le baquet d'une voiture qui dominait à l'époque. Et effectivement, c'est ce qu'on va chercher souvent chez les pilotes pour parler de légende ou parler de d'installer sa place dans l'histoire du sport automobile. Est-ce qu'il avait vraiment des qualités de pilote hors du commun ou est-ce qu'il a quand même profité des qualités supérieures de sa voiture, Jean-Luc?
Alors, c'est tout le problème des sports mécaniques, naturellement. Il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que, comme par hasard, les meilleurs pilotes se retrouvent dans les meilleures voitures au sein des meilleures écuries. Ben oui, c'est tout à fait normal parce qu'on essaie d'additionner et on le sait, ça se joue à quelques dixièmes, voire quelques centièmes de seconde maintenant. Donc, il était logique de trouver Vettel qui... Alors, l'explosion de Vettel, moi, je m'en souviens très bien, c'est quand il signe la pole à Monza sous la pluie. Et ensuite, et d'ailleurs, mon pote, Sébastien Bourdais, qui a été 4 fois champion IndyCar, était avec lui chez Toro Rosso à l'époque, c'était le nom de l'écurie AlphaTauri, et Seb fait une très belle performance, lui signe le 3e temps, mais qu'est-ce qui se passe en course? Seb a un problème et doit partir dernier dans cette course terrible avec une tornade effroyable et Seb gagne, Sébastien Vettel gagne et là il explose aux yeux de tous parce que c'est le plus jeune vainqueur, on se dit ça y est c'est la pépite et Red Bull met tout ce qu'il faut sur lui et le fait monter directement dans l'écurie majeure Red Bull après et voilà sa carrière démarre. Donc c'est pour illustrer le fait qu'effectivement une pépite, un excellent pilote, il arrive en général tôt ou tard dans les meilleures écuries, donc du coup il dispose des meilleures armes, et quand il y a une période de domination absolue, comme Schumacher en a bénéficié avec Ferrari évidemment au début des années 2000, parce qu'il faut quand même rappeler que Schumacher est arrivé chez Ferrari très tôt en 95, et qu'il a mis à l'issue de la saison 95, et qu'il a mis tout ce temps pour arriver à être champion du monde, il a mis beaucoup de temps lui aussi, donc ce sont des projets à moyen long terme.
T'es en train de dire qu'il faut que Leclerc s'accroche, c'est ça?
Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça finit par rigoler. Bon, on dit tous, que Lando Norris est une pépite à venir. Lando Norris qui a toujours pas gagné de Grand Prix.
Mais qui part en deuxième ligne aujourd'hui.
Il part en deuxième ligne. Mais il fait ce qu'il peut avec la McLaren. Qualifié. Donc, j'en reviens à tout ce que vous avez dit. Parce qu'en fait, on est obligé d'être d'accord avec tout. Oui, il a été formidable. Il a été exceptionnel. Quand il a disposé d'une machine exceptionnelle, après le défi Ferrari, malheureusement, et ça n'enlève rien à son talent, il l'a raté, il n'a pas réussi à être champion du monde, comme Fernando Alonso avant lui l'avait raté. C'est pas si simple en fait, et donc j'espère comme d'autres ne le rateront pas, mais ce que je veux dire c'est que Lewis Hamilton également a aligné tous ses titres parce qu'il avait la meilleure voiture, et pense que l'espoir, juste je termine
bien
avec
sûr,
ça, l'espoir de Vettel en misant sur Aston, on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là dans cette écurie moyenne, apparemment gros moyens investis donc par Lawrence Stroll etc, gros développement, mais c'est trop long pour lui, il n'a pas la patience d'attendre. Et je dirais qu'effectivement, il aurait pu avoir, avec le changement de réglementation de cette année, des espoirs. Il a vu que la voiture, non seulement elle marche pas pour le moment, mais elle marche moins bien que celle de l'an dernier avec l'ancienne réglementation. Il s'est dit, bon, moi, j'ai pas le temps d'attendre. Voilà.
Marion Bartoli, toi qui es une fan absolue de Lewis Hamilton, tu ne t'en es jamais caché dans cette émission. Est-ce que tu es sensible à l'argument, que certains balancent un petit peu au pilote britannique du fait que, bon, oui, bah, il a été 4 fois champion du monde, mais il avait la meilleure voiture. Est-ce que ça te parle?
4 fois champion du monde, Lewis Hamilton?
Non, tu parlais de Vettel, oui, parce que t'as dit britannique, c'est pour ça.
Allemand. Parce que, comme tu es fan de Hamilton,
britannique, c'est Hamilton.
C'est pour ça que j'étais un peu perdu.
Excusez-moi, comme tu es fan de Lewis Hamilton, le pilote britannique, à qui on oppose souvent le fait que, certes, il est septuple champion du monde, mais qu'il a souvent couru dans la meilleure voiture. Est-ce que le fait de dire, ok, Vettel 4 fois champion du monde, mais à l'époque, la Red Bull, personne ne pouvait la battre, est-ce que c'est un des arguments que tu prends en considération pour dire que.
Non, parce que comme l'ont dit mes collègues autour de la table, c'était vraiment effectivement un immense champion. Moi, quand je parle de regrets, je pense juste qu'il en avait peut-être un de plus dans le ventre, mais après, bien évidemment, qu'il a fait une immense carrière. Et quand quelqu'un prend sa retraite, on est forcément juste déçu de se dire qu'on va plus le voir piloter. Mais bien sûr qu'il a des chiffres et des stats qui sont absolument hallucinantes et qui pourrait être extrêmement fier de ce qu'il a réalisé. Mais je crois pas qu'on puisse dire qu'on peut mettre quasiment un pilote lambda et qu'il aurait gagné la course quoi qu'il arrive, parce que juste la voiture est meilleure. Enfin, la voiture, il faut la piloter, il faut la maîtriser. Il y a des faits de course. Jean-Luc en a parlé. Il y a plein de moments dans une saison où il faut prendre les bonnes décisions et où quasiment les pilotes disent à l'ingénieur la décision qu'il faut prendre, tellement ils ont cette espèce de sens et de don inné de ressentir ce qu'il faut faire au bon moment. Et je pense pas que ça soit donné à tout le monde, et je pense vraiment pas que si par exemple tu prends un pilote qui est 10e au classement et que tu le mets dans la meilleure voiture, il va être champion du monde en écrasant toute la concurrence. J'y crois pas du tout. Donc ce faux procès de dire au pilote qu'effectivement il gagne parce que c'est la voiture qui est au-dessus des autres, ça franchement c'est pas un argument que j'entends. En revanche, oui, pour Vettel Hamilton, ça a été des pilotes, et que ça soit encore des pilotes pour Hamilton exceptionnels, ça bien évidemment.
Jean-Luc, le mot de la fin.
Oui, juste Marion, ne me tape pas sur la tête, mais j'allais juste dire à propos de George Russell, et ça tombe bien, il vient de signer sa première pole. Tu te rappelles quand on l'avait mis dans le baquet de Lewis Hamilton, qui était écarté temporairement à cause du Covid, c'était à la fin de la saison 2020. Il était dernier, il était avec sa Williams, on l'a mis dedans, il était en passe de gagner le Grand Prix de Bahreïn, et Mercedes l'a fait perdre à 2 reprises, évidemment, pour pas justement dénaturer l'aura, etc. Il aurait battu Bottas à plate couture, simplement. Alors justement, les qualités de Russell sont là, hein, on est toujours d'accord. Mais ça veut dire que malheureusement en Formule 1, le résultat c'est 80% la voiture et l'écurie. Et ça je le pense, malgré toute l'admiration que j'ai pour tous ces pilotes. À moto c'est l'inverse, voilà, pour être clair. Les Grands Prix moto c'est l'inverse.
En tout cas c'est pas ce Grand Prix de Hongrie cet après-midi qui risque de faire nourrir des regrets à Sébastien Vettel. Il s'élancera en avant-dernière ligne, 18e des qualifs avec son Aston Martin. Il y a juste Gasly et Latifi derrière lui.
Mais ça fait mal au cœur parce qu'en plus c'est un type que tout le monde respecte, on l'a dit, parce qu'il y a le pilote et la personnalité. Ça, on aurait pu en parler. C'est un type qui... Alors évidemment, quand un pilote est moins performant, surtout quand ça a été un cannibale comme lui et qu'il a tout gagné, bah évidemment, on l'aime mieux. Les autres pilotes l'aiment plus parce qu'évidemment, il est moins dans leur patte. Ça fait partie du jeu.
Quand on ne gagne plus à chaque fois, effectivement, on s'attire la sympathie de ses concurrents. Ce Grand Prix de Hongrie, avec toi au commentaire, Jean-Luc, évidemment, vous n'en raterez rien sur RMC, 13e manche d'un championnat du monde palpitant. À 15h, les feux s'éteindront sur le Hungaroring. Max Verstappen qui part en 10e position. Hein. Ça promet du spectacle avec toi. Jean-Luc, merci d'être passé par le studio des Grandes Gueules
avec
du Sport.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
Vous les auditeurs, vous restez bien avec nous. On revient nous dans un instant. C'est déjà l'heure du zapping des Grandes Gueules. On s'en fout pas. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
Simon Dutin.
9h49, vous êtes bien sûr RMC. C'est le retour des Grandes Gueules du Sport dominical. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Cyril Marais, Marion Bartoli, Marie Martineau. À 10h, la punchline de la semaine. Notre ministre des Sports pense que supprimer les matchs de sport en plein air le soir permettrait une économie d'énergie susceptible de contribuer à l'effort climatique. Vous nous direz ce que cela vous inspire, les GG, mais pour l'instant, on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Vous connaissez le principe de cette rubrique, le PAF tout entier nous envie. Je vous donne une info, si elle vous intéresse, vous avez le droit à la parole. Si elle ne vous intéresse pas, vous n'en dégoûtez pas les autres. Vous n'avez juste pas le droit de vous exprimer. Si elle n'intéresse personne, on prend la zapette et on passe à la suivante. Première info, je vous le disais tout à l'heure, Laval, promu en Ligue 2, qui arbore cette saison une étoile sur son maillot. On s'en fout pas, Marie Martineau?
Moi je m'en fous pas.
On s'en fout pas, Cyril Marais?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas, Marion Bartoli.
Non, je m'en fous.
Ah, on s'en fout, voilà. C'est une info qui datait de juin dernier, mais dont on souhaitait vous parler dans le zapping, puisque la saison de Ligue 2 a repris hier. Le Stade Lavallois, promu cette saison, arborait donc face à Bastia hier une étoile qui figure au bas du logo sur le maillot des Tangos. Une étoile qui symbolise le premier titre dans l'histoire du club, titre de champion de National 1, c'était la saison dernière. Une étoile comme sur le maillot de l'OM, de Saint-Etienne ou encore du Paris Saint-Germain. Pourquoi on s'en fout pas, Marie ?
Bah parce que je trouve cool cette histoire de petite coquetterie, de se mettre une petite étoile. Voilà, Laval a réussi à atteindre certainement l'objectif suprême et ultime que pouvait, auquel il pouvait prétendre en étant cette équipe-là. Et donc je trouve ça cool qu'il marque l'instant avec cette étoile. Si ça leur fait plaisir, vraiment, je vois aucune condescendance ou aucune fausse fierté ou fierté mal placée là-dedans. Je trouve ça plutôt chouette. Si ça peut faire rêver les gamins du club de porter un maillot où il y a la petite étoile, mais c'est super. Bravo.
Qui est déjà mythique, les tangos. C'est cool, c'est pas ridicule, Cyril ?
Non, donc tu t'en fous, Marie, en fait.
Non, je m'en fous pas, c'est super chouette.
Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Maintenant, tu vas aller faire le tournoi de pétanque de nos gens le retrouvent, puis tu vas te mettre une étoile sur le t-shirt.
Ça te fait plaisir.
Mets-toi un hashtag, mets-toi un petit cœur. Mais ce que tu veux, mais mets pas une étoile. Une étoile, c'est l'élite. Enfin, tu gagnes la Ligue des Champions, Marseille 93. Arrêtez avec ça. Des étoiles, ils sont champions de France.
Ah, t'es jaloux.
Ah non, je suis pas jaloux, mais. Enfin non, mais c'est n'importe quoi, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'une étoile, c'est représentatif. Tu mets l'étoile, c'était Marseille, 93, Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, ils se bagarrent comme des dingues pour essayer d'aller chercher cette étoile aussi. Enfin non, j'arrive pas. Mets-toi un anneau,
c'est
mets-toi
marrant,
un truc.
C'est marrant, je pensais pas que ça te mettrait dans cet état.
Non, ça m'énerve.
Parce que tu voulais mettre une étoile sur ton kimono et ça t'a été refusé.
Exactement. Ben, j'aurais mis une étoile si j'avais été champion du monde.
Parce qu'il a gagné le tournoi du camping de
Teddy Riner, il a son... Non mais Teddy Riner, il a son kimono, il a 10 étoiles parce qu'il est 10 fois champion du monde, il a 2 anneaux parce qu'il est 2 fois champion olympique, 3 avec les équipes, mais enfin je veux dire,
faut respecter les symboles.
Je ne pas banaliser les
symboles distinctifs.
Ouais, c'est ça, on banalise les symboles et ça.
Mais cette étoile, en plus, elle ne veut pas dire la même chose suivant les clubs. Regarde le Bayern, ils ont une étoile ou peut-être même plus, alors que c'est pas.
Ça peut symboliser le nombre de titres de champion national, comme pour l'Olympique de Marseille, symboliser la victoire. En Ligue des Champions, mais effectivement,
c'est quand même autre chose qu'un
titre de champion de l'équivalent de la 3e division de football.
Un petit point brillant.
Ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions, on le sait bien. Ils ont mis leur étoile là-haut.
Ils mettront jamais d'étoile sur le t-shirt. C'est tout.
Comme vous êtes. Mais voilà.
Ils mettront pas d'étoile sur le maillot. On en parle plus.
On aime bien la
France. En tout cas, bravo à Laval pour leur titre de champion de France. Bravo.
Mais en fait, on se fixe l'objectif
au niveau de, enfin, par rapport à son niveau. Ils ont peut-être atteint, comme Marie l'a dit, leur plus gros titre. Enfin, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, bravo pour leur titre de National 1. Et puis, voilà. Bon, bonne chance pour la suite.
J'adore parce qu'il te regarde très sérieusement. En tout cas, on a retrouvé le droit de dire but à Laval dans le multiplex. L'intégrale Ligue 2 et Laval qui s'est d'ailleurs imposé hier sur la pelouse de Bastia, je crois.
Ça leur donnait des ailes.
Cette saison de Ligue 2. Allez, deuxième info.
Même le marqueur national, t'avais le droit de le dire.
Le remplacement sur carton rouge. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de multiplex. Le remplacement sur carton rouge mis en place dans le rugby international. On s'en fout, on s'en fout pas, Cyril Marais.
J'ai pas suivi.
T'as pas suivi.
Donc
on s'en fout.
Voilà.
Ça bosse avant l'émission, super. Merci, c'est noté. Marie Martineau, on s'en fout, on s'en fout pas.
Je m'en fous.
On s'en fout. Marion Bartoli.
Mais totalement.
On s'en fout.
Allez hop, suivant. Next.
Alors ça.
Point suivante.
C'est quoi la question ? On va mettre un petit coup de zapette. Alors ça nous laisse le temps de faire une petite info supplémentaire.
C'était quoi la question déjà ?
C'est trop tard, on a dû qu'on s'en foutait. Une cycliste.
Le remplacement sur carton rouge, Cyril.
Une cycliste, voilà, désormais on aura le droit de remplacer un joueur qui prend un carton rouge dans le rugby après 20 minutes après son exclusion. Une cycliste qui plaide pour un IMC minimum pour les coureuses au sein du peloton féminin. On s'en fout, on s'en fout pas, Marie Martineau.
Ah, là, je m'en fous pas.
On s'en fout pas, Cyril Marais.
On s'en fout.
On s'en fout pour Cyril, Marion Bartoli.
Je m'en fous pas du tout.
Pardon Marion ?
Je m'en fous pas du tout.
On s'en fout pas. Cyril, je suis un petit peu étonné que tu t'en foutes de l'IMC, mais bon.
C'est parce que j'ai une surcharge pondérale que tu me dis ça.
Non, pas du tout. J'aurais pu dire la même chose à David Douillet. Va savoir. Le peloton féminin s'attaque à la chasse aux kilos superflus afin d'éviter les états de maigreur chez les coureuses. Marlène Rösser, coureuse suisse, s'est déclarée cette semaine en faveur d'un indice de masse corporelle minimum afin de protéger la santé des coureuses. Il y a un mois, la jeune coureuse Pernille Mathisen avait décidé de mettre un terme à sa carrière. La Danoise, âgée de 24 ans, qui avait pour objectif de rejoindre la structure féminine de la Cofidis, avait évoqué des problèmes de santé mentale et un trouble de l'alimentation. La chasse aux kilos superflus face à l'exigence de la pratique professionnelle du cyclisme serait encore peu prise en considération par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Pourquoi on s'en fout pas, Marie Martineau ?
Alors, moi, je m'en fous pas parce que c'est un vrai sujet, pas que dans le cyclisme, mais dans tout, quasiment tous les sports à tendance en endurance. Et c'est quand même une question de fond. Est-ce que tu peux imposer des IMC ? Il y a aussi des minettes qui... alors, ça dépendrait tout du taux parce que tu as aussi des minettes qui, physiologiquement, sont comme ça, super minces, et elles sont évidemment avantagées en ce qui concerne toutes ces courses d'endurance. Gros sujet parce que dès que tu touches après à la maladie et aux excès auxquels conduisent le fait de se nourrir très peu pour peser très peu pour être plus efficace, évidemment là ça devient très compliqué.
Marion.
Bien évidemment quelque chose qui me touche parce que c'est aussi malheureusement une maladie que tu peux continuer à avoir après ta carrière. Donc ces troubles du comportement alimentaire dans un sens où effectivement comme le dit Marie, tu as une restriction permanente et chaque graine que tu manges, tu dis est-ce que ça va pas me faire prendre du poids, est-ce que là du coup je vais être moins performante dans l'ascension de mon col, etc. Enfin je pense que tu finis par en devenir complètement obsédé que par ça et pas arriver même plus vivre correctement. Et c'est pour ça que à mon avis cette sonnette d'alarme a été tirée. Après l'UCI, pour moi, ils doivent vraiment agir parce que c'est pour les filles, ça devient encore une fois une obsession qui te fait même plus aimer ton sport ou arriver à le pratiquer juste pour émettre sur un vélo et pédaler. Donc tu finis par être totalement absorbé par ces pensées au niveau de la nourriture. Tes journées sont quasiment régies que par ça. Et c'est surtout moi ce qui me pose un immense problème, c'est que généralement tu gardes ces troubles-là après ta carrière. Donc t'as quand même un impact sur une fois que t'as pris ta retraite et que t'as envie d'avoir une vie normale qui reste très important. Et ça c'est extrêmement problématique. Donc j'ai vraiment envie qu'ils agissent là-dessus.
Il n'y a pas que des sujets légers dans le zapping des GG. On était content effectivement de vous faire réagir sur cette information. Donc un appel pour un IMC minimum pour les coureuses au sein du peloton.
Juste je précise, ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. Et ne contenons pas ce problème-là, un problème de meuf, genre le régime et tout. Tu vois, c'est pas ça du tout. Hein. Quand tu vas à la tête d'un Bardet ou d'un Vingegaard à la fin du tour, il y a des questions à se poser aussi, quoi.
Voilà. Mais effectivement.
Message de David Douillet, la prochaine fois que Simon me traite de gros, je lui casse la gueule.
Ah, il est susceptible, Obélix, hein. Faut pas plaisanter, hein. Avec lui. On l'embrasse, David. Il était avec nous hier. Et effectivement, il est plutôt bonne patte. Il accepte.
Effectivement, il est gros.
Non, mais ça va pas. Dites donc. Jamais je n'ai dit que David Douillet était gros et jamais je ne le dirai. Vous restez bien avec nous, les auditeurs. Les grandes gueules reviennent dans un instant. On va se demander si le sport n'a pas bon dos dans la lutte nécessairement collective, effectivement, contre le réchauffement climatique. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.